Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM Radio pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, que je vous raconte en suivant l'ordre alphabétique et qui vous feront dire, je l'espère, rendez-vous conte.
Ce son continuera à retentir dans les campagnes, même les dimanches. Mais d'autres règles vont être renforcées, formations pratiques et théoriques plus poussées, un taux d'alcoolémie ne dépassant pas les 0,5 g et une application numérique où les chasseurs se signaleront. Alex Chanteloup chasse depuis 24 ans. Il est agacé par ses décisions.
À force d'en rajouter, au bout d'un moment, je pense que les gens vont en avoir marre. Donc, puisqu'on est censé chasser, et c'est une forme de liberté. Hein. On ne fait pas n'importe quoi, c'est déjà très réglementé. Enfin, je vois difficilement ce qu'on peut faire de plus.
Parmi les 14 mesures, ce plan de sécurité prévoyait l'interdiction de chasser le dimanche. Ce verrou est tombé pour le grand bonheur des chasseurs. L'abandon du dimanche non chassé est une véritable provocation pour l'ensemble des associations environnementales.
Le gouvernement a donc tranché. La chasse ne sera pas interdite le dimanche pour éviter que des promeneurs en famille ne se fassent plomber comme des faisans ou des sangliers. Comme on vient de l'entendre dans ce reportage FR3 Nouvelle-Aquitaine du 10 janvier 2023. Comme pour la corrida, la chasse continuera donc le dimanche et les autres jours, contre la volonté de près de 80% des Français, selon un sondage IFOP diffusé le 2 janvier 2023. Les chasseurs ont donc obtenu une nouvelle fois gain de cause au nom de leur « liberté », entre guillemets. Franchement, il faudra m'expliquer en quoi tirer pour tuer des lapins, des cerfs ou des sangliers est une « liberté ». Le gouvernement a une nouvelle fois cédé au lobby d'une minorité d'influence, les chasseurs, ou d'intérêts économiques, comme la corrida. Rendez-vous compte. Alors, j'ai eu envie de vous raconter une histoire. Une histoire que j'ai écrite il y a quelques années déjà, une histoire qui n'a rien à voir avec la chasse, mais qui imagine la juste révolte sourde mais redoutable des animaux et que je dédie bien entendu aux associations de défense animale telles que L214 ou le Parti Animaliste. Un récit à peine prophétique qui a pour titre un proverbe, quand les poules auront des dents, un proverbe qu'il faudra peut-être un jour prendre au pied de la lettre. Donc aujourd'hui, rendez-vous compte, paix comme poule.
Vous êtes bien sur IDFM 98.
Vous finirez tous comme Ronald Eagle.
Ronald Eagle, citoyen américain, 52 ans, président de l'OMC, l'Office mondial de centralisation. Ronald Eagle avait subi au printemps 2033 la chute de presque toutes ses dents. Ce désagrément invalidant s'était produit après l'absorption de la version modifiée numéro 3 de sa bière favorite, la Tauburg 421, qu'il se faisait livrer à grands frais depuis l'Europe. Afin d'éviter un procès fatal, le consortium universal qui commercialisait la Tauburg négocia à l'amiable avec Eagle. La compagnie lui proposait une dent-splantation complète qu'elle prendrait évidemment à sa charge. Tauburg lui offrait également un petit paquet d'actions boursières. Eagle ne refusa pas une offre aussi intéressante sur laquelle il s'engagea bien entendu à garder le plus absolu silence, y compris au sein de sa famille.
Moi, j'appris tous ces détails dans le bureau du professeur Gallo lors de nos séances de travail quotidiennes. Nous entendions bien le professeur et moi. Je peux dire qu'une véritable amitié se noie entre nous.
Au milieu du mois de juillet 2033, dans le plus grand secret, Ronald Eagle se rendit donc à la clinique de Bresse-Trans, établie à Louhans, au cœur de la Bresse. La Bresse, la région productrice de poulet la plus réputée au monde. Une région située à l'est de ce territoire que l'on appelait ex-France depuis la COP26 de l'Office mondial de centralisation. Ronald Eagle fut accueilli chaleureusement par son ami le professeur Gallo en personne. Gallo, le directeur de l'établissement, avait été contacté par le PDG d'Universal qui tenait beaucoup à la réussite de l'opération. Gallo se montra très attentionné envers son ami Ronald, Celui-ci ne put s'empêcher de plaisanter une nouvelle fois à propos de la très gauloise moustache de son interlocuteur.
« Ah, elle vous fait tellement ressembler à ce démonteur de McDonald's à la fin du XXe siècle. Vous savez, cet ex-agriculteur en révolte qui vous plaisait tant à vous, les Frenchies. Celui qui a ouvert son fameux Asterix Land en Californie grâce aux bénéfices générés par sa chaîne de restauration lente, les slow food. Comme tous les Américains, je n'ai pas hésité à jouer des coudes et à montrer les dents pour déguster des casse-croûtes au Roquefort en jouant au tarot à l'ombre d'arbres en plastique. C'était si typiquement French. »
Briefé par Gallo, Ronald Eagle passa la matinée à visiter l'ensemble des installations.
« Bien sûr, moi je m'arrangeais pour ne pas le rencontrer, mais je ne le quittais pas des yeux une seule minute. » J'avais appris à me faufiler n'importe où, sans émettre le moindre bruit.
Dans les hangars, le président de l'Office mondial de centralisation fut particulièrement impressionné par la taille exorbitante des poulets et davantage encore par leur insatiable appétit. De retour dans son bureau et à l'aide d'un logiciel informatique qui matérialisait en trois dimensions les mâchoires de Eagle, avant et après l'opération, Gallo lui présenta dans le détail l'intervention qu'il allait subir.
Un travail de pure routine, affirma-t-il.
À la fin de leur entretien, l'Américain manifesta une surprise qui réjouit son hôte lorsque le professeur lui tendit un verre du meilleur champagne.
À la France !
S'écria Gallo, le chirurgien, tout en sortant de sa poche une bande de tissu tricolore dans laquelle Eagle finit difficilement par reconnaître le drapeau de la France qui désormais n'avait plus sa place que dans quelques musées obscurs. À la vue de ce trophée des temps anciens, les deux hommes éclatèrent de rire et trinquèrent amicalement. Le centralisateur absorba une gorgée du liquide pétillant, puis soudain Hilar se tapa sur les cuisses avec la main qui ne tenait pas sa coupe.
« Ah, je me souviens de votre dernier 14 juillet. C'était, je crois, en 2027. Ouais, je me trouvais à Paris et je venais d'obtenir enfin de votre président la ratification du traité supprimant les hymnes nationaux au profit du World Central Song. »
Eagle savoura une seconde gorgée de champagne avant de continuer tout aussi joyeusement.
Alors qu'exaspéré par un nouveau report de sa part, je lui demandai sans ménagement quand il signerait enfin le traité, votre petit coq de président m'avait répondu en ricanant « Quand les poules auront des dents, mon cher. »
Eagle planta ses yeux dans ceux du professeur Gallo et sur un ton plus arrogant lâcha
« Il n'empêche, vous, les non-américains, vous avez bien dû vous résoudre finalement à vous soumettre à nos règles, Office Central de Centralisation, OMC, et World Central Song, et, comment dites-vous, caqueter avec le reste de la volaille, c'est bien ça, non ?»
Gallo se montra beau joueur. Il tapa sans rancune sur l'épaule de l'édenté américain.
« Rassurez-vous, tout ça est de l'histoire ancienne, cher ami. »
Vous êtes bien sur IDFM, nous poursuivons la suite des aventures de Ronald Eagle, l'édenté. Serein et confiant, Ronald Eagle, président de l'Office mondial de centralisation, s'allongea sur la table d'opération et tendit son bras au professeur Gallo qui lui injecta aussitôt une dose de produit anesthésique. Gallo lui prodiguait des paroles également soporifiques.
« Endormez-vous tranquillement, Ronald. Vous avez toutes les raisons pour cela. N'êtes-vous pas l'un des promoteurs de la mondiale médecine ? Grâce à vous, les poules ont des dents et le monde entier fait allégeance à la toute-puissance de l'Office mondial de centralisation. Profitez à votre tour des bienfaits que vous avez su si bien imposer au monde. » À votre réveil, votre problème de dents sera définitivement réglé.
Caché et silencieux, j'observais la scène, sourire aux lèvres. Le professeur Gallo ne me voyait pas, mais il savait que j'étais tout près de lui. Il m'interpella.
Tu n'as rien oublié, n'est-ce pas ?
Je bondis hors de ma cachette et lui désignai l'Américain. Non, en effet, Malgré les années, je n'ai rien oublié, et surtout rien pardonné. Eagle a été un des membres les plus actifs du mouvement pour la vie. Pour la vie, tu parles. Le mouvement a obtenu du gouvernement américain, et donc du monde entier, l'interdiction d'utiliser des cellules prélevées sur des fœtus. À cause de lui, la première régénération cervicale a été annulée, au tout dernier moment.
Je sais tout cela. Pour toi, cette régénération était l'ultime espoir. Elle aurait permis de redonner un semblant de cohésion au cerveau en miettes du plus célèbre des boxeurs du siècle finissant, ce magnifique champion du monde toute catégorie qui t'avait recueilli et choyé comme son propre fils. Tu ne manques jamais l'occasion de me le rappeler. Je vais finir par croire que tu radotes.
Je crachais sur Eagle. À cause de lui, j'ai vu mon père adoptif réduit au rang de bête décervelée mourir sans me reconnaître. Ça, je ne lui pardonnerai jamais. Gallo s'activait autour d'Eagle, son patient, que je haïssais et que j'aurais étranglé tout de suite sans la présence du chirurgien. Celui-ci manipulait et entrechoquait des ustensiles qui émettaient des bruits métalliques peu agréables. En jugé par l'amplitude et la densité des ondes d'émotion sur l'écran neuronique connecté au cerveau d'Eagle, ce genre de sonorité suscitait une angoisse croissante chez l'Américain, conscient, mais incapable de réagir en raison de l'anesthésie. Cette angoisse même qu'avait ressentie dans ces derniers moments mon père adoptif, paix à son âme.
D'autres bruits inquiétaient davantage Eagle, des grognements de cochons, des cris de singes. Il n'avait jamais eu de bon rapport avec des espèces-là, qui avaient pourtant assuré sa puissance.
Ne sois pas injuste à ce point. Grâce à Eagle, les maladies de Parkinson, d'Alzheimer, le sida, le diabète, les principaux cancers et d'autres affections moins connues ont subi une rémission rapide. Et même les Covid-22 à 31 ont été éradiquées. Elles ont fini par disparaître de la surface du globe il y a 3 ans.
Je réagis violemment. Oui, oui, au prix du sacrifice et des souffrances de milliers de singes élevés en batterie. Dans quel but ? Greffer leur moelle osseuse aux victimes de toutes ces maladies. Ces épidémies qui terrorisaient les populations humaines. Ces épidémies dont vous étiez à l'origine. Oui, vous êtes les seuls responsables avec vos pratiques inhumaines envers nos espèces. Face à ma colère, Gallo se garda d'évoquer les fermes biogénétiques dans lesquelles les porcs modifiés étaient produits pour fournir cœur, foie et reins en nombre suffisant à ses congénères. Il devinait que j'allais aborder le sujet. Dites-moi, Gallo, avez-vous oublié le mal que Beb a subi par sa faute ? Quand la L214, la Ligue de défense animale, a adopté ce pauvre porc martyrisé et a exigé qu'il soit remis en liberté dans une ferme à l'ancienne, comment Eagle s'est-il comporté ?
Oui, je le sais très bien, déclara Gallo d'un air las. C'était son job, tu sais bien.
Il continuait de m'exaspérer en faisant semblant de prendre le parti de notre ennemi.
Il a mis tout son talent d'avocat d'affaires pour défendre les intérêts de la firme American Biotech, propriétaire de Beb. Son plaidoyer a été remarquablement habile, reconnais-le. Il a emporté l'adhésion enthousiaste du jury. Beb a été condamné au prélèvement de ses organes vitaux pour une greffe sur un milliardaire américain. Quant à ses partisans, soumis à une amende colossale qui les a obligés à dissoudre leur organisation, eh bien, c'était fini pour eux. Fin stratège tout de même que cet Eagle, non ?
Évitant de lui donner raison sur ce point, je me contentais de répliquer... Heureusement, Beb a réussi à prendre le maquis et la police a perdu sa trace.
Vous êtes toujours bien sur IDFM, nous poursuivons la suite des aventures de Ronald Eagle, l'édenté, en pleine dense plantation.
Je regardais de nouveau Eagle, livré à notre bon vouloir. L'important n'était pas de poursuivre cette dispute stérile avec Gallo. L'heure n'était plus à la polémique, mais à la vengeance. Gallo resta silencieux, le temps de placer les écarteurs de mâchoire sur son patient. Il vérifia les analyses moléculaires que les ordinateurs effectuaient sans interruption. La greffe s'annonçait sous les meilleurs auspices. Redevenu sérieux, Gallo me demanda.
C'est bien à cette époque que ton destin a croisé de nouveau Eagle.
Exact. Après le décès de mon père adoptif, j'avais été transféré dans un établissement pilote destiné aux êtres de mon espèce. Lors d'un séminaire de l'OMC, l'Office mondial de centralisation, on me présenta à Eagle, son tout nouveau président.
Munis de pinces, les mains du professeur Gallo s'activaient dans la bouche écartelée du centralisateur, lucide mais toujours réduit à l'impuissance.
Je regrettais de ne pouvoir observer de plus près le déroulement des opérations. Gallo poursuivit.
D'après ce que l'on m'a rapporté, Hegel a semblé très impressionné par la conversation privée que tu as eue avec lui.
Flatté par le compliment, je confirmais. Oui, j'ai su le séduire en effet. Bien entendu, je lui cachais l'essentiel de ce que je pensais. Il donna des ordres pour que, le premier, je bénéficie des acquis les plus révolutionnaires en matière de formation. Il se fit même désigner comme mon parrain.
Tu vois, quel homme précieux il a été pour toi, comme pour tant d'autres.
Ah, ne recommencez pas à me provoquer, hein. Je savais quel argument lui ferait perdre ce ton supérieur à mon égard. Et les poules, aucune espèce vivante n'a jamais subi pareille humiliation. Gallo se redressa vivement et se tourna vers moi. La moustache trempée de sueur, le crâne déplumé, les joues écarlates et les mains ruisselantes de sang, il ressemblait davantage à un assassin surpris en flagrant délit qu'à un chirurgien de réputation mondiale.
Cette fois, tu as parfaitement raison. Les recherches dans ce domaine de la xénomédecine m'ont toujours révulsé, mais moi aussi j'ai bien su cacher mon jeu.
Pour attiser davantage Sarah, je soufflais. Toutes ces horreurs pour éliminer l'une des principales sources de désagrément physique dû au vieillissement, la chute des dents à partir de 60 ans chez les humains. Me tournant à nouveau le dos, Gallo reprit sa besogne. Abandonnant pince et bistouri, il saisit une perceuse visseuse de taille fort réduite mais d'une puissance redoutable. Il pressa sur la détente pour en vérifier le fonctionnement.
Un vrombissement sinistre mit fin momentanément à notre conversation. Au bout de quelques secondes, satisfait de son matériel, il relâcha la pression de son doigt sur la gâchette et le cisdent se rétablit. Gallo poursuivit ses explications.
En ce qui concerne la chute des dents chez les humains à cause du vieillissement, cette fois, ni le porc ni le babouin ne permettaient une réponse appropriée. Mais il a fallu, hélas, qu'en 2025, la Harvard Medical School découvre la poule aux yeux d'or. Les études, les expériences et les analyses ne laissaient aucun doute. L'animal parfait pour assurer la production de dents de rechange pour notre espèce était la poule.
Ah, je me souviens de l'hilarité générale et de l'incrédulité qui a accueilli cette annonce. Eh ouais, mais pourtant, dès le début de l'année 2029, les premiers poulaillers dentaires ont vu le jour en Bresse. Dire que cette région française, mondialement réputée pour les qualités gustatives et la robustesse de ses poulets, a été tout simplement achetée par l'American Biotech. Grâce à l'intervention de l'OMC, bien entendu, et Hegel a joué un rôle décisif dans cette importante opération. Au passage, il a empoché un confortable bénéfice, hein, fis-je, martelant la table. J'eus la surprise de voir le professeur poser soudain ses armes et s'asseoir en face de moi. Visiblement, Gallo s'accordait une pause avant l'attaque décisive. Je profitais de l'occasion pour exhiber la bouteille et les deux verres que j'avais dissimulés entre deux bacs réfrigérés. Ravi de cet imprévu, le professeur se servit une dose de pastis. Nous trinquâmes amicalement. Il commenta ma remarque précédente.
Une peccadille en comparaison des dividendes suivants.
Il but une gorgée avant de reprendre la parole avec amertume.
Il a fallu une année pour que les premiers spécimens mutants apparaissent. Les poulets présentaient une taille triple et un squelette incroyablement plus solide en comparaison de leurs cousins non modifiés.
Surtout, et c'était le seul but de l'entreprise, une mâchoire remplaçait avantageusement le bec.
À cette partie cornée et saillante, utile seulement aux membres de l'espèce mère des gallinacées, la science triomphante avait réussi à substituer un couple solide de mâchoires osseuses tout à fait comparables aux nôtres.
C'est alors que l'on m'a envoyé auprès de vous, professeur Gallo, rappelais-je en trinquant de nouveau avec lui. J'avais été désigné meilleur xéno-collaborateur mondial. Il est vrai que je n'avais pas mon égal pour assurer le dialogue entre les diverses espèces animales et humaines. Je constituais assez vite mes premiers réseaux, j'assistais aux premières denses plantations humaines. Quel souvenir atroce!
Gallo soupira. Il vida le fond de son verre et secoua la tête visiblement affectée. Il se retourna vers la table de travail où l'Américain, sanglé et tuyauté de toutes parts, écoutait la conversation, de plus en plus inquiet, incapable de la moindre réaction. Gallo lui donna un violent coup de poing dans le ventre. Les paramètres biologiques de l'Américain réagirent fortement à cette agression soudaine, mais retrouvèrent assez rapidement leur niveau normal.
J'applaudis bruyamment ce geste que je trouvais parfaitement légitime. Cet Eagle qui m'avait contraint à effectuer rapidement cette dense plantation.
Et dans un secret absolu, continua Gallo, elles se soldèrent malheureusement par les échecs dont tu as été témoin. Les cobayes humains furent victimes d'un phénomène de rejet incontrôlable. Les dents de poulet ne prirent pas racine dans leurs maxillaires. Mais pire, après leur chute, les malheureux virent leurs mâchoires et leurs lèvres s'étirer et s'amincir vers l'avant jusqu'à ressembler à un bec. « Je me suis jamais pardonné cette barbarie »,
conclut-il, particulièrement affecté.
Par crainte de voir sa soudaine mélancolie compromettre notre vengeance, je maintiens le fil de notre conversation qui risquait de se dénouer. Mais ces contre-performances initiales, dont le public ignora tout, furent très utiles aux biologistes de Bestrand qui corrigèrent et améliorèrent leur technique dans les semaines qui suivirent. Apaisé par ma remarque, il énonça des faits que je connaissais parfaitement. Je l'écoutais néanmoins sans l'interrompre.
Sur instruction personnelle d'Eagle, l'expérience de transplantation fut renouvelée ultérieurement sur des sujets édentés à la suite d'une surdose accidentelle de fluor dans leur alimentation. Cette fois, réussite totale. Les dents s'implantèrent solidement et les 10 individus purent à nouveau se nourrir normalement.
Et ce fut le début de votre gloire, professeur.
L'Office mondial de centralisation accorda aussitôt un monopole exclusif à la Bestrand.
Eagle vous fit attribuer le prix Nobel d'amélioration génétique. Votre compagnie devint l'une des toutes premières firmes mondiales en termes de chiffre d'affaires et de notoriété. Vous voyez quel homme précieux il a été pour vous, comme pour tant d'autres, ajoutai-je en singeant mon ami.
Le professeur haussa les épaules et reposa son verre. Son énergie renouvelée, il se leva et reprit sa place au-dessus du visage déformé de Ronald Eagle. Les écarteurs maintenaient béantes les mâchoires à rectifier. Il s'inclina vers le cloaque rougeâtre aux gencives sinistrées.
La perceuse visseuse retentit à nouveau et ses sinistres crissements mirent un terme définitif à notre discussion. Gallo acheva son opération sans plus se préoccuper de moi. Quand il me fit enfin signe d'approcher, je découvris avec enthousiasme le résultat de son travail. Ah, il ne l'avait pas volé, son prix Nobel. Endormez-vous paisiblement, monsieur le centralisateur mondial, ricanai-je en quittant le bloc chirurgical.
Quelques heures plus tard, Ronald Eagle s'éveilla peu à peu sous l'effet d'un doux piaillement à peine perceptible. Il se sentit d'abord très bien. Il eut conscience que ses mâchoires avaient retrouvé leur densité d'avant son accident. Elles semblaient animées de mouvements réguliers. Il pensa tout d'abord que ses mouvements de mastication étaient régulés par le chirurgien, soucieux de vérifier le bon fonctionnement des maxillaires opérés. Mais il finit par s'alerter du piaillement qui ne cessait de croître. Il parvint enfin à ouvrir les yeux. Il poussa alors un cri horrifié autour de son visage. Dans l'unité de réanimation, une douzaine de gigantesques poulets se pressaient, agitant frénétiquement leurs ailes infirmes et piétinant d'une patte sur l'autre. Malgré le vacarme atroce, le professeur Gallo, sourire aux lèvres, les caressait avec la plus manifeste affection. Les volailles monstrueuses en gloussaient de plaisir. Eagle remarqua que leur bec était entièrement rongé et atrophié, comme s'ils étaient atteints par la lèpre. Eagle constata que les mouvements de ses maxillaires s'effectuaient environ toutes les 30 secondes. Il avait la certitude désormais qu'on lui faisait broyer quelque chose. On lui injectait dans la bouche une dose de gros granulés qui, une fois écrasés, laissait place à un bol alimentaire semi-liquide. Écœuré, il ferma de nouveau les yeux et retrouva peu à peu son calme. « Les produits anesthésiques vous provoquent toujours de ces cauchemars », pensa-t-il en essayant de se rassurer. Ouvrant les yeux, un peu plus tard, il s'aperçut bientôt avec épouvante qu'il ne s'agit pas d'un rêve. À quelques centimètres de lui, les poulets géants étaient toujours là, agités et bruyants, caquetant avec le reste de la volaille. Il songea alors avec horreur aux rumeurs qui étaient parvenues à l'OMC. Ce faux accident d'avion qui aurait permis à la Ligue européenne de défense animale de récolter une trentaine de jeunes sportifs américains de haut niveau pour greffer leur cœur à des porcs et des babouins atteints de maladies congénitales. Et puis, seules ses mâchoires fonctionnaient, sans interruption. Après chaque cycle de mastication, le maxillaire supérieur demeurait largement ouvert sous la pression d'un vérin dont Eagle ressentait la pression. L'un des poulets plongeait alors sa tête dans la bouche écartelée de Ronald. Sa langue râpeuse venait prélever la bouillie de maïs qui s'y trouvait, puis, momentanément repu, le gallinacé cédait sa place à l'un de ses congénères.
Eagle poussa soudain un infâme borborime. Le centralisateur venait de nous reconnaître, sans erreur possible, mon compagnon et moi à 2 mètres devant lui. Il comprenait maintenant l'origine des grognements et des cris stridents qu'il avait perçus peu avant de sombrer dans le néant de l'anesthésie.
Eagle tourna vers Gallo, ses yeux exorbités. Devant son air terrorisé, le professeur Gallo, dressé sur ses ergots, poussa soudain un retentissant et victorieux « Cocorico ». En pleine confusion, le président de l'Office mondial de centralisation se rappela enfin qu'en latin, « gallus » signifiait « coq »,« gallus »,« gallo ». Eagle s'évanouit en voyant le professeur Gallo brandir devant lui un étendard des États-Unis où l'aigle américain, Eagle, avait été remplacé par un coq gaulois triomphant.
Avec mon ami et mon camarade de combat, le cochon Beb, j'observais le calvaire du centralisateur mondial avec une totale satisfaction. Et je me mis à siffloter l'hymne de l'alliance animale, humaniste, moi, Chito, le singe rebelle.
Ainsi se termine ce rendez-vous compte d'aujourd'hui. Un récit avec pour titre ce proverbe, quand les poules auront des dents, un proverbe qu'il faudra peut-être un jour prendre au pied de la lettre. Un récit qui continue plus que jamais, selon moi, à réfléchir sur le traitement que nous infligeons aux animaux, traitement inhumain de notre part à nous, les humains, dans les élevages industriels, bien sûr, les abattoirs, bien sûr, mais aussi les laboratoires où des animaux continuent à subir d'atroces expériences pour le « confort » entre guillemets de notre espèce, comme Beb le cochon, cette histoire. Un récit qui met en scène la révolte générale de ces animaux libres, ou soumis de force à notre pouvoir bien trop sûr de son bon droit, entre guillemets. Une révolte menée ici par Chito, le singe rebelle. Je sais, le thème n'est pas inédit, que l'on songe par exemple à La ferme des animaux de George Orwell, au célébrissime Planète des singes, ce roman de science-fiction publié en janvier 1963 par l'écrivain français Pierre Boulle, un roman adapté au cinéma en 1968 avec Charlton Heston dans le rôle principal. D'ailleurs, les illustrations musicales de ce rendez-vous compte étaient, entre autres, extraits de la bande-son du terrifiant Psychose d'Alfred Hitchcock, qui date de 1960, mais aussi du fabuleux 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, sorti en 1968 également. Et si vous voulez vivre une odyssée, non pas dans l'espace, mais dans l'art et dans le temps, je vous invite à la conférence de l'association Point de Suspension, conférence que M. David Benayoun, professeur agrégé d'art plastique, consacrera à Léonard de Vinci, mouvement, espace, lumière et influence, à la salle des arts créatifs de Saint-Luc-la-Forêt, en contrepas du marché, ce samedi 28 janvier 2023 à 17h. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delattre sur IDFM Radio. À la semaine prochaine, même heure sur IDFM. En attendant, voici sur le terrain l'émission qui laisse la parole aux Valdoisiens et qui présente tous les événements de notre département sur IDFM, évidemment.